Ismael lo cachó de Gasal. Se refiere totalmente
que fue el intercomercio que está andando con los familiares de la institución con la institución para todo.
Bonjour à tous, merci d'écouter Radio Capi et parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage sur les grandes questions d'actualité. Ce mercredi 15 décembre 2010, nous parlons avec vous de l'enseignement supérieur et universitaire. Dans beaucoup d'institutions d'enseignement supérieur et universitaire en RDC, ce sont les assistants et chefs des travaux qui dispensent les cours à la place des professeurs. Plusieurs raisons expliquent cette situation, la carence des professeurs qui se dénombre à ce jour à environ 1000 et dont la moyenne d'âge est de 65 ans, alors que la RDC compte à ce jour environ 1131 établissements d'enseignement supérieur et universitaire, tant public que privé. Pour les uns, hormis la carence des professeurs, les quelques-uns qui sont disponibles sont assez occupés, soit dans les fonctions politiques, soit travaillant comme expert, ce qui réduit sensiblement leur temps et ils s'en remettent ainsi aux assistants et chefs des travaux qui sont accusés des fois par les étudiants de ne pas être à la hauteur de leurs tâches. Du coup, cela soulève le débat sur la qualité de l'enseignement et son adaptation sur le marché de l'emploi. Comment réagissez-vous face à cette situation et que proposez-vous pour remédier à cela? Nous avons invité pour vous le professeur Léonard Machakomamba, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Marie-Chantal Lumba, Titi Poutou et Nicole Ndiaka sont à la réalisation de cette émission mise en onde par Dieudonné Nyangasa. Pierrot et la Mégie au micro pour la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Bonjour à tous, vous êtes parents, étudiants, assistants, chefs des travaux, professeurs et vous êtes auditeurs des Radio Capi. Nous nous penchons avec vous sur le fait que dans beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur et universitaire à travers le pays, ce sont les assistants et chefs des travaux qui dispensent les cours à la place des professeurs. Ce débat nous a été, ce sujet nous a été aussi plusieurs fois écrit par les auditeurs qui s'inquiètent de la qualité de l'enseignement et surtout de son inadaptation sur le marché de l'emploi. Comment réussissez-vous à cela? Et surtout, quelles sont vos propositions pour remédier à cette situation? Vous pouvez nous appeler au 081-890-6315, ou bien au 09-97-06-6315, et si vous avez accès à l'Internet, vous pouvez également réagir en nous envoyant un message électronique à l'adresse pa@radioocapi.net. C'est la réalisation de ceci qui est notre invité et des gens en ligne, Monsieur le ministre Léonard Machakomamba, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, Pierre.
Nous parlons aujourd'hui de la difficulté que beaucoup d'étudiants rencontrent dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire à travers le pays. La première difficulté pour eux, qui nous concerne aujourd'hui, c'est le fait que beaucoup de cours sont assurés par les assistants et pour des fois aussi les chefs de travaux. Ça dépend d'un institut à l'autre et aussi d'un milieu à l'autre. Comment, d'emblée, avant d'aller plus loin dans l'émission, vous pouvez réagir à ces constats?
Merci beaucoup. Je voudrais remercier Radio Capi une fois de plus pour l'opportunité qui nous a donné de parler de l'enseignement supérieur. Le sujet de aujourd'hui est un sujet qui est crucial, car en effet, il n'y a pas d'élite s'il n'y a pas un corps enseignant. Et le corps enseignant comprend bien sûr les professeurs, mais également les corps scientifiques enseignants. Par corps scientifique enseignant, on entend les chefs de travaux, les assistants de premier et de deuxième mandat, et les chargés de pratique professionnelle de premier et de deuxième mandat. Tout ce corps concourt à la fonction de formation. Donc notre pays a ses différents corps, mais par rapport au nombre d'étudiants, parce qu'actuellement nous avons dépassé le cap d'un demi-million d'étudiants, nous sommes autour de 600 000 étudiants au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, avec 2000 professeurs, ce qui est inférieur aux normes qui prévoit un professeur pour 10 étudiants. Donc nous devions en fait être au-delà de 6000 professeurs pour être dans les normes. Et nous avons un corps scientifique qui lui aussi est légèrement inférieur aux normes. parce qu'il faudrait 5 scientifiques pour un seul professeur. Là, on voit aussi par rapport au chiffre actuel de l'ensemble de cours scientifiques écrits autour de 9400, que nous sommes légèrement en dessous des normes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une croissance du nombre d'étudiants qui avance plus vite que le nombre d'enseignants. Ceci pose évidemment la problématique de la relève, mais le fait aussi qu'on est obligé, si on veut assurer un minimum d'enseignement, de voir les chefs de savoir et les assistants à assumer la fonction de formation. Mais c'est prévu par la loi, je voudrais directement rassurer. Lorsque vous prenez le BACMECOM et que vous voyez le chapitre qui concerne la charge horaire, la charge horaire aussi concerne et les chefs de travail et les assistants. Ce qu'on peut déplorer, c'est que par moment, les chefs de travail et les assistants qui doivent donner ce cours sous l'encadrement et la coordination d'un professeur sont laissés à eux-mêmes. C'est là où on peut se poser la question. Et c'est la situation de notre pays. Et donc, vous pouvez comprendre tout le combat aujourd'hui pour progressivement ramener notre système d'enseignement supérieur universitaire dans les nombres, c'est-à-dire en favorisant, en créant des conditions pour que le nombre de thèses augmente, en veillant à ce qu'il y ait moins d'administratifs. Actuellement, nous avons un excès d'administratifs alors qu'on devait plutôt avoir
un excès de scientifiques.
De scientifiques et de professeurs. Donc, on a un système renversé. C'est l'ensemble de tous ces gros chantiers de l'enseignement supérieur que nous devons affronter pour que progressivement nous puissions remplir les conditions d'une formation optimale pour nos étudiants.
Voilà, monsieur le ministre, on vous garde en ligne. Nous avons aussi le professeur Emmanuel qui nous appelle de l'ISP en Boujimaï, à qui nous allons aussi remettre la parole. Mais on pourra revenir à vous aussi pour qu'on puisse quand même poser le diagnostic et savoir à quel moment on a connu des problèmes. Est-ce qu'on a sous-estimé l'évolution démographique? On n'a pas pu prévoir cela à temps, parce que qu'on se retrouve dans cette situation, on pourra revenir à vous. Le temps qu'on écoute aussi d'autres auditeurs qui sont en ligne, qui ont aussi un point de vue et une proposition par rapport à ces sujets.
Parole aux auditeurs.
Professeur Emmanuel, vous êtes en Boujimaï, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes professeur à l'ISP à Boujimaï. Nous parlons de ces difficultés que nous avons dans les institutions d'enseignement supérieur universitaire où il y a beaucoup d'assistants aujourd'hui, ceux qui travaillent, qui dispensent les cours. Des fois, comme le ministre l'a dit, il y en a même qui dispensent les cours sans être encadrés par les professeurs. Et sur place où vous êtes en Boujimaï, comment ça se fait? Est-ce que vous connaissez ces problèmes ou bien quand même la situation marche bien à l'ISP où on a beaucoup de professeurs qui encadrent les assistants ou soit ce sont les assistants qui sont abandonnés à eux-mêmes et qui dispensent les cours?
Oui, mais non, la situation elle est même plus grave en Boujimaï qu'à Kinshasa, parce que vous savez que le plus grand nombre de professeurs du pays sont à Kinshasa, dans la capitale. Ici, chez nous, la situation est même beaucoup plus grave. Et évidemment, pour le cas de l'ISP, il y a quelques professeurs, mais en fait, ce n'est pas suffisant.
Et comment quelques professeurs s'organisent alors pour combler, encadrer les étudiants? Est-ce qu'il y en a qui ont laissé les cours à la disposition des assistants ou bien quand même le peu s'organise pour combler toute la charge horaire, comme vous venez de le dire, monsieur le ministre?
Non, ils sont très peu nombreux, ils ne peuvent pas assurer toute la charge en fait. En dépit de leur bonne foi ou de leur volonté. Donc, ce qui fait que la plupart des cours sont en train de mettre des assistants ou des chefs de travaux, et le professeur se contente de leur propre charge. Mais il faut aussi dire que le manque de professeurs, notamment à l'IST, a semé une certaine culture. C'est que, vous voyez, une certaine des assistants qui sont là, en fait, ils ne se sont pas encadrés par les professeurs. Ils sont tellement habitués à évoluer seuls que maintenant ils ont difficile aussi à se faire encadrer par les professeurs. C'est aussi notre paire de manches. D'ailleurs, parce que vous évoquez ce cas de l'encadrement, nous constatons que dans nos universités aujourd'hui, principalement pour la ville de Boujimaï, je connais assez bien, les gestionnaires n'utilisent pas les ressources disponibles pour combler aussi cette lacune. Heureusement que le ministre est en train de suivre cette émission, il intervient. Il a institué les frais de mobilité pour pouvoir résoudre de manière temporaire le problème qui se posait dans notre secteur. Mais malheureusement, les gestionnaires utilisent les prêts actuellement pour payer les assistages et les travaux et les gains qui se manquent d'ailleurs, parce qu'ils ont besoin de moyens de filer beaucoup d'assistants et de les travaux comme visiteurs qui viennent de Kinshasa, de Lubumbashi. Alors que même sur place, il y a quelques ressources que l'on peut utiliser, mais on veut ne pas dépenser moins en utilisant un personnel surqualifié.
Voilà, merci beaucoup, professeur Emmanuel. Le ministre pourra bien répondre à cette préoccupation, le fait qu'à Mbujima, les gestionnaires aujourd'hui préfèrent utiliser les frais de mobilité, les frais de fonctionnement pour inviter les assistants et même les chefs de travaux qui viennent de Kinshasa et de Lubumbashi, plutôt qu'ils utilisent qui sont sur place. Hein, et c'est bien arrivé vraiment dans les oreilles du ministre qui aura le temps de répondre. Merci de nous avoir appelé de Mbujima au Kasaï Oriental. À Lubumbashi, Théodore, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste Pierre-Lemont.
Et vous êtes assistant. Dites-nous comment vous assistez un professeur. Vous êtes encadré par les professeurs, bien c'est vous-même qui êtes maître des cours, si on peut le dire. Vous avez vos cours que vous dispensez avec vos syllabus que vous imprimez.
Merci beaucoup. Je voudrais intervenir à trois niveaux. D'abord, je suis assistant à l'ISP Kananga.
Mm-hmm.
Je ne suis pas sous un encadrement d'un professeur quelconque.
Mmh.
Je disais qu'il intervient à trois niveaux. Premièrement, je remercie le professeur Macha Koumamba qui est là, parce que toujours à travers la radio Capi à cette émission, je lui avais demandé pour l'extension de l'université Lubumbashi et à Kananga. Il m'a rassuré et que une semaine après, il a signé un arrêté que cette étendue était devenue une université au Kananga.
Voilà.
Je vous remercie.
Merci.
Le constat, la deuxième, c'est que, en fait, au Congo, nous avons un enseignement de masse et non un enseignement d'élite. La raison pour laquelle il y a cette panoplie de chefs de travaux et d'assistants qui assurent le cours et que les professeurs sont vraiment minimes. En troisième position, je présente la situation de Kananga, plus particulièrement de l'ISP Kananga, c'est bien.
Et voilà, désolé qu'on vient de perdre Théodore pendant qu'il était vraiment en train de décrire la situation, mais cela nous, bon, n'est pas peut-être que la réalisation le récupère, hein. On revient à monsieur le ministre, Léonard Macha Koumamba. Vous venez de suivre les deux premiers intervenants, le professeur Emmanuel de l'ISP Mbujima. Il s'inquiète du fait qu'aujourd'hui les comités de gestion n'utilisent pas les frais de mobilité, ils ne les affectent pas, n'est-ce pas, à la raison traditionnelle, et même ils sont utilisés pour inviter des assistants et des chefs de travaux qui viennent d'ailleurs pour Alain Mbujima. Et Théodore, son intervention a dû s'écouper. Il est temps peut-être qu'on récupère la ligne, monsieur le ministre.
Je salue le professeur Emmanuel de Mbujima,
mm-hmm.
et certainement Théodore de l'ISP Kananga.
Mm-hmm.
Concernant Mbujima, je voudrais, sans entrer dans le détail, dire que autant nous appuyons les efforts déployés par le comité de gestion, autant aussi nous souhaitons que s'il y a des ressources bien qualifiées localement, qu'elles puissent avoir la préférence par rapport à ce qui viendrait de loin, parce que souvent ce qui vient de loin, dans le cadre de la mobilité, contribue en partie à perturber les calendriers académiques.
Mm-hmm.
Mais je ne peux pas oublier aussi de rappeler qu'il y a des professeurs à l'ISP Kananga qui avait brillé lorsqu'il dirigeait par les arrestations intempestives et des collègues et des assistants et des chefs des administratifs, notamment les syndicalistes,
mm-hmm.
qui leur montraient qu'ils avaient une mauvaise gestion. Les faits sont établis. Ces personnes-là, j'ai demandé qui est la tolérance zéro, parce qu'on peut être professeur, être un bon professeur, mais être un mauvais gestionnaire. Et je ne veux pas que ceux qui ont mal géré hier l'ISP Kananga et qui l'ont l'ISP Mbujima et qui l'ont amené dans les bas-fonds puissent, même s'ils sont sur place, continuer à pouvoir perturber le fonctionnement. Ça, je ne pourrais pas tolérer.
Mm-hmm.
Deuxièmement, je voudrais vous dire que l'ISP Mbujima est en train de sortir de très loin. Et je suis heureux de voir que, grâce au comité actuel, dirigé par madame le professeur Seya, ils ont commencé à avoir leur propre bâtiment par cet effort coordonné et du comité de gestion, du corps enseignant, du corps administratif et surtout des étudiants. Donc, tout ce qui va dans le bon sens, nous pouvons que l'encourager. Et toutes les tentatives de déstabiliser le fonctionnement, nous ne pourrons pas le tolérer.
Voilà. Mais permettez maintenant qu'on reprenne Théodore qui est en ligne parce qu'on l'avait perdu. Et Théodore, vous êtes à Lubumbashi. Vous êtes en train de dire que le deuxième problème que vous soulevez dans l'émission, c'est le fait que nous avons un enseignement de masse et non un enseignement d'élite. On vous suit, on vous écoute.
Ok, merci, c'était ça. Et en troisième prochain, je voudrais présenter la situation de l'USP Karanga. Vous savez que l'USP Karanga a plus ou moins 150 enseignants. Et parmi les 150 enseignants, vous n'avez que plus ou moins 15 professeurs. Donc, vous pouvez vous rendre compte hein, combien de travaux et combien d'assistants nous avons dans cet institut supérieur pédagogique de Karanga. Et alors, il y a des domaines, il y a même des sections où vous n'avez aucun professeur. Par exemple, vous avez le département de mathématiques, le département de physique, ainsi de suite. Vous n'avez pas de professeur. Par manque de frais de fonctionnement, à l'époque, on invitait les enseignants, d'ailleurs, qui venaient attirer des cours. Maintenant, ils ne viennent plus. C'est pour dire qu'il y a plusieurs années qu'on forme des licenciés qui parlent aussi des travaux et des assistants. Donc, c'est une situation vraiment dramatique. Et c'est l'assistance des travaux, ils donnent les mêmes cours plusieurs années, sans encadrement de quelques docteurs. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut faire à ce secteur. Je m'en vais aux propositions.
Allez-y rapidement, alors.
Bon, comme proposition, moi, je pense que le ministre doit penser à l'amélioration des conditions de vie et de travail des chefs de travaux et des assistants. Et ces conditions de vie, vous comprenez, le salaire ne permet pas aux enseignants, surtout aux assistants de travaux, de faire un peu plus pour s'occuper de la recherche et aller pour défendre une thèse quelque part, surtout que le représentant n'a pas une école doctorale. Quelques solutions qui étaient prouvées pour une école doctorale de l'IPEN, où les enseignants de l'IESP s'étaient bien inscrits, le même ministre a supprimé cette école doctorale de l'IPEN, et voilà, ils sont là, en train de tourner le poste. Deuxième proposition, c'est l'encadrement de ces œuvres de travaux et assistants, en donnant, en octroyant plus de bourses, parce que nous constatons que des bourses, c'est plus dans les grandes universités. Pour toute une année académique, comme ce qui vient de se passer ici l'année passée, nous n'avons rien fait à obtenir aucune bourse pour un enseignant, un assistant, un chef de travaux. Comment on peut penser voilà. à améliorer les conditions?
Merci.
Et pour terminer,
terminer par là rapidement, on a beaucoup de gens en ligne.
Pour terminer, je dis qu'il faut aussi la prise en charge des concernés. Et aussi, il y a une volonté de ceux qui sont appelés à devenir assistants sur les travaux. Quand on s'engage à être assistants sur les travaux, il faut aussi se faire violence pour penser qu'on doit faire plus plutôt que rester plus sur les travaux et sur les travaux ou assistants sans un projet de la commission d'encadrement, sans même une vision pour devenir un jour professeur.
Merci Théodore. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes à Lubumbashi où les auditeurs nous suivent sur 95.8 MHz.
Vous avez des préoccupations, un besoin d'orientation? Radio Capi réunit des spécialistes compétents dans Capi Service. Toute une équipe de nos journalistes fait le lien entre eux et vous. Santé, emploi, conseil au monde rural, droits du citoyen, ONG, tous les domaines de la vie sont concernés. Au Capi Service, de lundi à vendredi, dès 9h dans le Kinshasa. Au Capi Service, des astuces simples pour sortir des situations compliquées.
Et nous avons en ligne de Kinshasa, Aimant, vous êtes un ancien étudiant, bonjour.
Bonjour.
Vous avez vécu la situation telle que nous l'avons décrite, vous avez étudié ici à Kinshasa ou bien vous étiez ailleurs en province?
Oh, ok, j'étais ailleurs en province, mais à un certain moment, j'ai fait mes études à l'IPEN.
Voilà. Et eu égard à tout ce qui a été dit, ce que vous avez connu quand vous étiez à l'université, et aujourd'hui, peut-être, vous travaillez quelque part, vous êtes sur le marché de l'emploi. Comment vous trouvez les enseignements que vous avez reçus par rapport à ce que vous vivez maintenant comme besoin sur le plan de l'emploi, Aimant?
Ok, la situation est très précaire, dans le sens que l'enseignement qu'on est en train de donner dans nos différentes universités n'est pas un enseignement de qualité. Ça, il faut le souligner. Dans le sens que la plupart de ceux qui dispensent les cours, ce sont toujours les chefs des travaux et les assistants. Par exemple, je prends une petite illustration à l'IPEN, parce que c'est là que moi j'ai passé. Vous verrez qu'il y a des étudiants qu'on a connus qui sont passés dans ces auditoires en tant qu'étudiants, qui n'ont jamais eu à satisfaire ou à distinguer. Mais après, à un moment, vous voyez ces étudiants-là en train de redonner cours. Tout dans les auditoires, ils ont passé. C'est qu'ils sont récupérés par tel professeur et ils sont devenus assistants ou chefs de travaux. Ça, c'est ce qui est déplorable. Ça, c'est de un. De deux, il avait fallu nécessairement que les ministres puissent prendre ces décisions. Mm-hmm. Parce que la décision que les ministres ont prise dernièrement pour la suppression des sciences infirmières, cette décision n'est même pas respectée.
C'est-à-dire que, Emma, si on peut vous arrêter, vous dites que les sciences infirmières de l'UPR continuent à fonctionner en dépit de la décision du ministre, c'est ça?
Oui, nécessairement, ça continue à fonctionner, parce qu'il y a des étudiants qui continuent à prendre l'inscription à l'UPR. C'est pour dire que les professeurs ont balayé d'un regard de main ce que le ministre a pris comme décision. Et là, moi, je me pose des questions. Quel est le rôle, alors, de ce ministre et quel est le sens et responsabilité du ministre? Parce qu'il a pris la décision. Moi, c'est tout. On a loué ce que le ministre avait dit, parce que moi j'ai passé à l'IPEN. Je connais comment les sciences infirmières fonctionnent à l'IPEN. Donc les conditions ne sont pas louables.
Oui, vraiment, merci.
C'est d'une façon précaire que c'est bien qui dit.
Merci, Emma. Nous prenons directement prof. Yaoui dit, professeur, vous enseignez effectivement à l'IPEN. Vous venez de suivre Emma qui nous appelle de Kinshasa. Nous parlons de la carence des professeurs et le fait qu'il y a beaucoup d'assistants et de chefs de travaux qui assument les responsabilités aujourd'hui en donnant les cours. C'est les problèmes pour lesquels aussi le ministre a pris la décision d'arrêter carrément l'organisation des sciences infirmières à l'UPN. Il y a quelqu'un qui est passé par là qui s'inquiète, c'est Emmanuel, qui dit qu'on n'a pas assez d'enseignants pour ça. Il y a les mêmes les étudiants qui n'ont pas distingué, qui sont retenus comme assistants, qui continuent à donner cours dans cette imbroglio. Comment on peut améliorer la qualité de l'enseignement? Et vous êtes d'ailleurs à l'UPN. Et puis, en dépit de la décision du ministre, les sciences infirmières continuent à fonctionner. Comment vous expliquez un peu tout cela sur les résultats finaux qu'on doit avoir, la qualité de la formation de l'élite, professeur Yaouidi?
Le problème tel qu'il est posé ne concerne pas seulement l'Université pédagogique nationale. C'est un problème général qui concerne l'ensemble de notre pays. Et lorsque vous êtes en train d'aborder le problème de l'université, de l'enseignement supérieur universitaire, vous mettez essentiellement l'accent sur l'Université pédagogique nationale, ça devient tendancieuse. Alors là, je risque de ne pas me prononcer. Mais si vous me posez le problème d'une manière générale concernant l'ensemble de l'enseignement supérieur universitaire de notre pays, à ce moment-là, j'ai une réponse à vous donner.
Oui, monsieur le professeur Yaoui dit, on ne parle pas de l'UPM, on a parlé de l'USP Kananga, de l'USP Mbujimaï, ce sont les auditeurs. Il y a un auditeur qui vient de parler avant vous, qui pose le problème de l'UPM. Je dis bien, un auditeur vient de dire à l'UPM, malgré l'interdiction, ça continue, ça fonctionne, ce n'est pas un débat tendancieux, c'est un débat de propositions pour qu'on trouve des solutions aux problèmes concrets qui se posent. On ne va pas y aller par une généralité sans solution concrète, professeur Yaoui dit.
Oui, et le conseil à propos du département des sciences de la santé, le conseil d'administration des universités s'est réuni et a levé déjà une option. Ce qu'on est en train d'attendre, c'est que les ministres puissent prendre l'arrêté. Puisqu'on ne peut pas permettre que l'Ukraine, qui a une certaine vision, qui est en train de former des enseignants qui doivent intervenir dans les systèmes, parce que nos systèmes qui sont implantés ici et là n'ont pas d'enseignants formés, qualifiés. C'est alors qu'ils peuvent enlever cette option de former compte tenu du besoin de la société, de former des enseignants qui doivent intervenir dans les systèmes, dans les systèmes. Et ensuite, l'Ukraine, en tant qu'université, doit aussi former des docteurs en sciences infirmières. Quel est cet endroit, quelle institution qui est en train de former des docteurs en sciences infirmières?
Voilà.
C'est plutôt louable compte tenu des besoins de la société. On est en train de se plaindre des nombres réduits des professeurs. Alors, qui doit former ces professeurs? Ce sont des professeurs qui doivent tomber du ciel. Mm-hmm. Il ne faut pas attendre qu'on aille à l'église, attendre que les professeurs nous tombent du ciel.
Voilà.
Les professeurs doivent être formés dans une université. Mm-hmm. Cette université qui doit prendre en charge la formation des enseignants qui doivent intervenir dans les ISP. Le système, c'est pour des enseignants qui doivent être formés à l'Université pédagogique nationale du point de vue de sa mission.
Voilà, merci professeur Yaouidi, mais du moins aussi, nous savons qu'il y a, en ce qui concerne les sciences infirmières, par exemple dans les ITEM, nous avons aussi l'ISM qui organise les ASI, c'est l'enseignement et l'administration des sciences infirmières qui s'occupent aussi des les cours au niveau des ITEM et même la suite au niveau des listes. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Kinshasa. Nous revenons d'abord à notre invité avant de continuer. Monsieur le ministre, vous avez suivi assez d'auditeurs. Hein. Chacun a posé son problème et son inquiétude. Théodore de Kananga, il a vraiment balayé beaucoup de choses qui touchent l'IFP, ses inquiétudes. Il y a aussi Aimant qui est revenu sur la situation des sciences infirmières à l'UPN. Vous avez suivi l'inquiétude de professeur Yaouidi. Je viens de compléter cela. Mais en ramassant toutes ces inquiétudes, il se pose un problème, vous l'avez déjà dit, c'est les problèmes aussi des moyens pour parvenir à former comme il faut. Je profite aussi pour vous poser cette question qui est, en regardant votre adresse devant, c'était lors de la célébration du cinquantenaire de la RDC, c'était en Belgique, je crois bien, dans l'université Louvain et l'université, si je peux bien prononcer cela, c'est Katholieck Université Leuven, à l'occasion du cinquantenaire. Vous avez évoqué la difficulté du budget alloué à l'enseignement qui s'élève à 2%, ce qui ne peut pas permettre, bien sûr, d'avoir assez de moyens pour former et permettre, nous, aux assistants et aux chefs des travaux, d'aller jusqu'à devenir le professeur. Vous pouvez aussi peut-être ramasser toutes ces inquiétudes posées par les auditeurs. On vous écoute.
Merci beaucoup. Je voudrais remercier Théodore de Kananga et lui dire qu'il a fait une série de propositions. Mais la première proposition, je pense qu'il est conscient que le chef de l'État et le gouvernement ont pensé à améliorer la situation sociale. Et je voudrais dire au chef de travaux que de ne pas chercher l'alignement vers le bas et de voir comment, en fait, ils doivent maintenant se faire violence, c'est le terme qu'il a utilisé, pour qu'ils s'inscrivent en DEA, qu'ils soient en DEA, qu'ils aient leur thèse, de façon à ce que cette amélioration, c'est un début, ce n'est pas la fin, mais que ça aspire vers le haut et pas aspirer vers le bas, comme on a vu certains de ses collègues, vouloir déclencher des grèves en disant qu'ils ont aussi bien être alignés au même niveau que les professeurs. Deuxièmement aussi, il a vu que voyant les présenteurs qui empêchent certaines institutions de pouvoir aller vers l'avant, nous avons autonomisé Kananga, Likasi, Kalemier, Bouya, de façon à ce qu'il y ait aussi une stimulation qui permette d'amener une compétition et donc de nous tirer vers le haut. Il doit savoir aussi que dans le budget du gouvernement, nous sommes battus pour que pour les chefs de travaux, il y ait un accompagnement du gouvernement pour faciliter leur travail. Nous attendons que le budget soit voté pour voir si dans quel sens nous évoluons. Mais pour terminer, je suis heureux qu'il lui-même a dit qu'il faut se faire violence. Tous on a été assistants chefs de travaux. On ne peut pas dire qu'on est dans les meilleures conditions. Ceux qui se sont fait violence ont continué jusqu'à devenir professeurs. Et d'autres, vous savez qu'on a encore des collègues qui sont encore chefs de travaux. Nous avions les mêmes conditions. Donc, si on se fait violence, on peut aller vers le sommet. Je voudrais aussi remercier Emmanuel de Kinshasa et lui dire que nous assistons à ce qu'on appelle des antivaleurs. Des gens non méritants, ce sont eux qui, à l'issue des études moyennant monnayage et d'autres techniques, aujourd'hui on se retrouve avec des assistants, des chefs de travaux, 10 ans, 15 à 20 ans. Voilà pourquoi je viens de décider de mettre ça au mandat de tous les assistants qui ont fait plus de 8 ans sans évoluer. Et nous allons pratiquement aussi revoir les textes pour revoir les mandats des chefs de travaux. On ne peut pas accepter que quelqu'un reste 40 ans chef de travaux parce que finalement, c'est un bois mort et n'apporte rien à l'enseignement supérieur. Et je voudrais dire au docteur, au professeur Yaouidi, qu'il ne se trompe pas. Le conseil d'administration donne un avis, c'est le ministre qui décide. Le ministre, au nom du gouvernement, a permet la section des sciences infirmières. Et je voudrais lui dire, parce que souvent les professeurs ne veulent pas regarder en face, l'UPEN n'est pas qualifié pour former les enseignants des systèmes. Et je voudrais vous lui demander de regarder l'UPEN Kinshasa qui vient de faire organiser 5 thèses de doctorat au Maroc, de PhD. Les deux premiers viennent de rentrer au pays. Au mois de janvier, il y a encore d'autres thèses qui vont être soutenues. Et ne peut enseigner dans les systèmes que celui qui a fait l'IASI, on ne peut se réaliser que celui qui a réussi les, d'abord le diplôme de A2 en sciences infirmières et qui donc peut continuer au niveau des ISPEN. Non seulement la section de l'ISPEN est fermée, mais des professeurs qui veulent continuer à brandir des antivaleurs, ils ne s'étonnent pas qu'ils soient sanctionnés. Et ceux qui veulent être des grandes vedettes, je pense que l'État leur rappellera qu'il y a des textes qui sont au-dessus de nous tous. C'est vrai que nous avons un problème de budget. Nous avons une part très faible. Mais vous avez vu la détermination du chef de l'État de donner un regard prometteur. Non seulement après Kindu et Bukavu, il y a l'Unitim, l'Unitis, l'Unilou et l'UPEN, pour lesquels il y a des fonds qui vont être libérés, les travaux vont être lancés bientôt pour la réhabilitation et le rééquipement de ces institutions.
Voilà.
On ne peut pas accepter comment le chef de l'État s'engage pour rénover que des professeurs, des comités de gestion se complaisent dans le rabaissement du niveau. L'université est un milieu d'excellence et pas d'improvisation.
Voilà, merci.
Et donc là aussi, ça doit être très clair.
Merci. Franck est à Vienne, en Autriche, en dehors du pays, fidèle est à Tananga. On va le prendre tout de suite pour avoir aussi leur point de vue et surtout leur proposition.
Parole aux auditeurs.
Franck, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Pierrot, et bonjour à son excellence, monsieur le ministre. Je suis avec intérêt.
Voilà, vous êtes en Autriche, à Vienne, je crois bien, c'est pour les raisons d'études, je crois.
Oui, je suis presté comme assistant là, dans un grand séminaire à l'UCCR, l'immédiat de Chassa.
Et aujourd'hui, nous parlons des devoirs et moyens que nous devons dégager, vous qui nous regardez avec un œil de l'extérieur par rapport à l'expérience de là où vous êtes. Qu'est-ce que vous pouvez proposer au pays pour qu'on puisse améliorer, qu'on puisse avancer, qu'on ait assez de professeurs qui s'occupent des cours et aussi qu'on puisse aider les assistants, les chefs des travaux, et comme le ministre l'a dit, que l'université soit le milieu de l'excellence et tout cela avec comme résultat, bien sûr, l'amélioration de la qualité dans sur tous les plans au pays, dans presque tous les domaines, Franck.
Oui, merci beaucoup, M. Pierrot. Je suis content que notre ministre de l'Enseignement supérieur se montre toujours disponible pour intervenir dans des débats de ce genre. Mais moi, personnellement, j'ai des préoccupations. J'aimerais peut-être commencer par lui poser des questions. Qu'il nous dise d'abord le pourcentage du paquet budgétaire que notre État alloue à son ressort. Parce que quand on parle de l'université comme centre d'excellence, c'est sûr qu'on ne peut pas former des cadres si on n'alloue pas un budget considérable pour ces gens-là. Nous sommes en train de nous plaindre, il n'y a pas de professeurs où on laisse toute la responsabilité aux assistants. Mais nous devons aussi arriver à accepter que cette situation résulte d'une injustice de la politique salariale. Donc, M. Pierrot, j'ai toujours dit plusieurs fois, on ne peut pas faire étudier quelqu'un pour qu'il rentre travailler dans de mauvaises conditions. Donc, quand quelqu'un étudie, il aspire quand même à une vie aussi de qualité. Parce qu'il a des ambitions de qualité, il aspire aussi à une vie de qualité. Mais si, par exemple, vous faites étudier quelqu'un jusqu'au doctorat, il rentre là, vous ne le payez pas convenablement. Est-ce que les autres qui sont là en dehors du pays, ou bien ceux qui sont là sur place, vont encore se motiver pour aller chercher à travailler là-bas? Je crois que chez nous, le statut du professeur de l'université n'a plus jamais été honoré. Donc, le professeur d'université, on le considère comme, je m'excuse pour le dire, comme tout n'importe qui, mais quelque part, ça doit nous donner à penser. Moi, je voudrais toujours poser cette question. Pourquoi l'État congolais trouve quand même plus de 4 000 $ pour payer mensuellement à un député, de n'importe quel niveau académique, l'État congolais trouve au moins plus de 3 000 $ pour payer nos ministres? Je ne vais pas dire qu'ils sont qui doivent tous être licenciés des docteurs, mais au moins, ils ont cette manière-là. Mais je me suis toujours posé des questions, pourquoi notre État n'arrive pas aussi à trouver ne plus que 3 000 $ pour le professeur d'université. Mais quand ils ne sont pas bien payés, qu'est-ce qu'on doit attendre d'eux C'est comme ça que comme conséquence, quand ils commencent leur carrière, ils se rendent compte qu'au niveau de l'enseignement supérieur, le traitement n'est pas correct. Tout le monde cherche à se lancer vers la politique. Donc pour être bien rémunéré au Congo, il faut se lancer vers la politique. Et dans notre cas, si tout le monde commence à développer des ambitions politiciennes, ça ne peut pas aller. Ça, c'est une des inquiétudes que j'ai toujours ressenties des deux.
Voilà.
Il n'y a pas de politique claire pour l'assistant. Donc, quelqu'un commence à prester comme assistant, il ne sait pas s'il va prester pendant une année, pendant deux années ou bien c'est pour une éternité. Alors, si on doit limiter d'abord la durée de l'assistant, il faudrait qu'il y ait aussi des bourses allouées pour ces gens-là pour aller se faire former, pour préparer leur dissertation, leur thèse de doctorat et rentrer travailler. Voilà. Et quand quelqu'un rentre travailler, il faut aussi. Tout travaille dans des conditions vraiment respectables.
Moi,
je crois que, tant que je vois les choses se développer chez nous, je suis content personnellement que son excellence, monsieur le ministre, intervient de temps en temps. Mais jusque-là, on ne voit pas des effets sur le terrain. Il a parlé, mais c'est combien le budget de l'enseignement supérieur universitaire?
Voilà, merci. Voilà, merci Franck, on a suivi, vous avez soulevé assez de questions, vous avez posé aussi des questions directes au ministre, vous avez évoqué la valeur du professeur, comme on le dit bien, c'est une vocation, c'est un apostolat, c'est une carrière noble hein, qu'il faudrait l'honorer. Et là, vous avez évoqué les statuts spéciaux pour le professeur, on va en parler avec le ministre. Merci de nous avoir appelé de l'étranger, nous revenons au pays, au centre du pays, c'est Fidel qui est à Kananga. Bonjour Fidel.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Mais Fidel, ami, au milieu de l'émission, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, là où vous êtes à Kananga, si vous êtes étudiant, qu'est-ce que vous proposez pour vous permettre d'avoir accès aux professeurs et améliorer la qualité de l'enseignement que vous devez recevoir si vous êtes étudiant, ou bien proposer pour ceux qui sont en train d'étudier?
Ok, merci. Moi, je suis étudiant de l'UNICAN, précisément l'UNILOU, que le monsieur le ministre vient de parler tout de suite là. Oui, j'ai constaté depuis que j'ai changé, pour le moment je suis en GED, j'ai constaté que depuis que nous avons débuté les cours, nous n'avons aucun PO juste là.
Vous dites qu'il n'y a aucun professeur ordinaire, c'est ça?
Aucun professeur ordinaire, il y a des assistants. Ils viennent surtout rarement. Alors, je voulais un peu profiter de cette occasion pour demander un peu au monsieur le ministre. Si c'est de lui qui a fait sortir cet arrêté que nous puissions payer $280 dans toutes les universités de Kananga, on paye 205, 215, mais si nous payons seulement 280, et pourquoi? Quand nous avons essayé un peu de demander au monsieur le recteur, il nous répond que cet arrêté vient du ministre. C'est vrai ou pas?
Voilà, merci Fidel. Vous êtes inquiet pour le prix académique à Kananga. Vous, vous êtes à l'université de Kananga, c'est ce qui était autrefois extension de l'université de Lubumbashi. Vous vous inquiétez qu'on vous demande de payer $280, on pourra poser la question. Nous allons d'abord à Lubumbashi. Prosper, vous êtes en ligne, vous êtes étudiant. Bonjour Prosper.
Bonjour, bonjour Capi.
Prosper, on vous écoute. Quelles sont vos inquiétudes par rapport aux cours que vous recevez? Mais à Lubumbashi, quand même, vous avez assez de professeurs, Prosper.
Oui, je crois que c'est une préoccupation.
Allez-y.
Ça, c'est vrai. Le fait que je suis à l'école de santé publique, mais que je suis devenu licence, je n'ai jamais assisté en cours à un professeur.
Attends.
C'est pour ça que je suis
de cours. Allons-y doucement. Prosper, allons-y doucement parce que votre ligne a assez de problèmes. Vous dites que vous êtes à l'école de santé publique, à l'école de santé à Lubumbashi, mais depuis que vous y êtes, il n'y a que des assistants qui vous donnent les cours, c'est ça?
Oui, il n'y a que des assistants. Je ne connais même pas les deux titulaires de cours comme un professeur.
Voilà.
Je ne connais même pas les deux professeurs.
L'autre préoccupation.
La deuxième préoccupation. L'année passée, le ministre de l'Assemblée a instauré une réforme où il a augmenté les frais académiques. Dans un jour, on a demandé des étudiants à payer obligatoirement $50 pour le professeur visiteur. On fait $50 pour le professeur visiteur, mais on ne va même pas faire professeur
visiteur.
De nos cours. Ma troisième prédit, une préoccupation, ici, la doyenne de la faculté, nous a obligés d'aller suivre le cours, les étudiants de la 15e licence et de la 1ère licence, d'aller suivre le cours dans une église, là où il n'y a même pas une chaise, même pas une tableau. Donc il faut suivre le cours du coup. Quand on paye les gens pour négocier, ils disent qu'il n'y a pas de négociation, donc ça décide que c'est effectif par l'évangile.
Voilà. Ok. Professeur, vous avez dit qu'on vous a demandé d'aller sur les cours où précisément?
Dans une église.
Dans une église où il n'y a pas de banquettes, il n'y a pas de chaises. Merci.
Pas de chaises, pas de tables.
Voilà, merci Prosper. Nous lisons d'abord des messages, on remet la parole au ministre. Et là, nous allons garder Emmanuel, qui est chef des travaux à Kananga, qui va rester en ligne. Avelin Debouy a dit ceci, ce qui est décevant, beaucoup de ses assistants n'ont pas qualité, mais pour des raisons de foi, des acquaintances tribales, ils deviennent des assistants. Stani, qui est biologiste médical dans une clinique de la place ici à Kinshasa, et assistant aux instituts supérieurs autorisés à Kinshasa, dit ceci, si aujourd'hui dans notre pays, les assistants et chefs des travaux donnent cours, cette situation est due à la carence des professeurs et à leur mauvais traitement par l'État congolais qui ne les prend pas en charge, qui n'a pas assez pris de la fonction, la profession des professeurs avec beaucoup de valeur. Monsieur le ministre, avant qu'on prenne un autre auditeur, nous pouvons revenir à vous pour répondre à ces quelques préoccupations après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Nous avons notre ami Franck qui nous a appelé de Vienne en Autriche qui dit ceci. Pour lui, il voulait savoir aujourd'hui à combien s'élève le budget de l'État alloué au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Il a parlé des statuts spécifiques des professeurs. Pour lui, je pense que si déjà au niveau du pouvoir, au niveau de la politique, on considère les professeurs dans son statut spécifique, spécial, on peut facilement penser à améliorer aussi ses conditions de vie. Et il voudrait savoir les assistants, combien de temps doivent-ils rester assistants, combien de temps doivent-ils rester chefs des travaux. Et là, d'ailleurs, vous avez déjà répondu par la mesure que vous venez de prendre. Notre ami des Kananga s'inquiète aussi, hein. Il n'y a pas de professeurs sur les assistants et on leur a demandé de payer des $180 pendant que les autres 205. Et l'inquiétude de notre ami Prosper de l'école de santé de Lubumbashi.
Merci beaucoup. Je voudrais répondre à la monsieur d'abord Franck qui est à Vienne et de l'associer à l'ami qui est à Bounia qui a parlé des conditions sociales. S'ils sont, je n'en doute pas, des observateurs attentifs, ils savent que le 10 avril 2010, devant son Excellence, monsieur le Premier ministre, il y a eu un protocole d'accord qui a été signé entre le gouvernement et l'association des professeurs. Au centre de ce protocole, c'est la revalorisation de la situation sociale. Cette revalorisation a commencé depuis le mois d'avril. Je pense qu'il y a une évaluation qui s'est faite même samedi dernier par les représentants des différentes associations des professeurs à l'Université de Kinshasa, mais ça reprenait l'ensemble des représentants de tous les établissements publics. Je pense, sans entrer dans les chiffres, le gouvernement a fait un pas qui rend encore crédible de la fonction enseignante. C'est une première étape. Et nous pensons aussi qu'au début de cette année, il y a encore un autre complément pour le corps académique qui va s'ajouter pour montrer qu'on est sensible à cette condition sociale et que, sous les yeux du chef de l'État, des conditions sont en train d'être mises en place pour que cette vocation soit une vocation qui attire ceux qui, aujourd'hui, en fait, entre dans ce secteur par désespoir. Le mandat de l'assistant de par la loi, c'est l'article 36, est de 2 ans renouvelable 2 fois seulement. C'est pour cela que tous ceux qui ont fait plus de 8 ans en état assistant, sans être arrivés à publier 1 ou 2 articles pour devenir chef de travaux, j'applique la loi, je les fais rentrer dans leur vie habituelle, mais ne peuvent pas être ces éléments qui demain peuvent constituer la relève. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on va se pencher aussi sur la provenance des chefs de travaux. On ne peut pas continuer à fermer les yeux des gens déjà qui font 10 à 20 à 30 à 40 ans chefs de travaux. Il n'y a pas un savoir supplémentaire qui peuvent ajouter à la jeunesse. Donc là aussi, nous devons mettre de l'ordre. Parlant de Fidèle de Kananga, que je remercie, je voudrais lui rappeler que, en fait, on regarde souvent ailleurs sans vouloir regarder dans son environnement. Je m'adresse à tous ces frères du Kasaï occidental et à d'autres. Il y a plusieurs PO, parmi déjà les gens qu'on a nommés à la tête de cette université, il y a des PO. Quand il me dit qu'il y a aucun PO, là, ça m'étonne, c'est comme si on ne connaissait même pas les grades des autorités qu'on vient de nommer. Et en plus, il faut savoir clairement dans la directive ministérielle 012, nous avons dit que les frais sont fixés par les partenaires. Les partenaires, c'est qui ? Le comité de gestion, le représentant du corps académique, du corps scientifique, des syndicats et la coordination des étudiants. Donc il ne faudrait pas, je vois encore devant moi les autres protocoles qui ont été signés dans plusieurs provinces, parce que les étudiants ne s'assument pas là-bas pour être partie prenante aux négociations. Et dans la 012, il est précisé qu'ils doivent tous signer pour montrer qu'ils ont négocié, qu'ils sont tombés d'accord. Mm-hmm. Donc on ne met pas ça sur le dos du ministre, parce que le ministre a donné la directive et les modalités pour certifier que ce n'est pas une décision qu'impose le comité de gestion, que c'est quelque chose qui a bénéficié d'un consensus et qui doit être assisté par la signature d'un protocole. Mmh. Donc, ils doivent s'interpeller aussi les étudiants et les assistants pour qu'autour du même table avec le comité de gestion, ils arrivent à fixer en fonction des données qui sont les leurs sur place les frais maximales qui peuvent être payés. Concernant Lubumbashi, l'école de santé publique, là aussi c'est une surprise parce que Postin, le directeur de l'école de santé publique est professeur. Et je connais des professeurs de l'université de Lubumbashi, médecins et non médecins, qui donnent cours à l'école de santé publique. Est-ce que nous parlons de la même école de santé publique de l'université de Lubumbashi? Je peux me poser la question, connaissez-vous le nom de madame le professeur Malonga, qui est la directrice de cette école et qui est docteur en sciences? Et donc là aussi, je ne sais pas si nous parlons de la même chose.
Voilà.
Et de même, les frais académiques qui seraient liés aux visiteurs, ce n'est pas au ministre de dire donner tel à tel endroit. Et même si ceux qui n'ont pas besoin de visiteurs ne peuvent pas
demander. Voilà,
donc là aussi, il faut que les assistants et les étudiants connaissent exactement quelle est la situation de leur institution. Il ne faut pas que les gens se cachent derrière le ministre pour pouvoir soit fermer les yeux devant des anomalies ou tolérer des anomalies. Voilà. Donc là aussi, il faut que les gens puissent s'assumer. Et je suis quand même étonné de voir que l'école de santé publique de Lubumbashi qui est à côté des cliniques universitaires de Lubumbashi, qu'on me dise qu'ils
n'ont pas besoin de
donner le cours, qu'on va donner cours dans les églises.
Voilà. Merci, monsieur le ministre. On vous garde en ligne. Nous avons deux auditeurs qui vont nous accompagner au bulletin d'information avant de remettre la parole au ministre. Emmanuel, vous êtes chef des travaux. Vous êtes à Kanagia. Bonjour.
Bonjour.
Si nous allons déjà vers la fin de l'émission, c'est le moment des propositions concrètes. Hein. Pour vous, chef des travaux à Kananga, eu égard à tout ce qu'on a dit, ce que le ministre a dit, qu'est-ce que vous proposez pour quand même vous aider, qu'on puisse aussi étudier, aider les étudiants et que la situation puisse s'améliorer? Parce que nous sommes au moment des propositions, Emmanuel.
Oui, je vous ai bien suivi. Je félicite d'abord le ministre qu'on pose ici pour le souci d'améliorer et sa rigueur, bien sûr. Mais pour moi, je suis pas de les dire comme il est dit, ou pas de les dire, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour encadrer? À dire que quand on a organisé une école doctorale qui fonctionnait d'ailleurs très bien, les professeurs venaient des IPN, des Lumbashi. Mais strictement, on a formé cette école. Et quel est le sort de nous, chefs de travaux assistants? C'est tout ça ma préoccupation, je veux bien sur le toit, j'ai dit. Je voudrais qu'on puisse envoyer des bourses pour encadrer des chefs de travaux qui vont devenir aussi professeurs au lieu de chercher des mesures graves pour diminuer les mandats ou ça, quelque chose.
Voilà, merci Emmanuel. D'ailleurs, j'étais à ce micro avec le ministre autour des écoles doctorales, mais Marie Chantal également. On avait parlé de la suspension en attendant que c'est le LUPEN qui les organise se mette en ordre avec tout ce qui est recommandé au niveau du ministère. Je pense que c'est nouveau, là même que on a vu dans le débat avec Marie Chantal, moi-même avec le ministre. Nous avons ici à Kinshasa le professeur Okolo qui est en ligne. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Vous avez suivi les cours du débat. Notre souci, c'est de dégager les pistes et des solutions pour améliorer la qualité de l'enseignement, surtout avoir beaucoup de professeurs qui peuvent aider à encadrer aussi les assistants et les chefs des travaux. Vous avez suivi les inquiétudes des uns et des autres. Qu'est-ce que vous proposez à ce niveau du débat, professeur?
Bon, je viens de suivre avec attention ce que vient de dire le ministre. Je souscris entièrement à ce qu'il est en train de dire. Parce que moi qui suis en train de vous parler, je suis un produit local. Je suis aujourd'hui professeur, après avoir suivi tout le cursus, et je me suis engagé aux études de troisième cycle localement, et avec un peu plus de discipline et de sacrifices, et beaucoup de sacrifices, je peux dire, et je suis arrivé à présenter ma thèse. Aujourd'hui, je suis professeur et je suis fier d'être un produit local. Moi, je crois que nos amis ne peuvent pas se mettre toujours dans la peau de ceux qui passent leur temps à se plaindre. L'expérience que nous avons eue à l'ICACIC, qui est une expérience et que j'encourage, et à travers cette émission, je salue tous ceux qui ont eu à diriger l'ICACIC et qui ont eu cette idée de pouvoir relancer l'école doctorale. Mmh. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au 8e docteur formé localement. Et je vous dis sincèrement que c'est une expérience que d'autres universitaires et institutions doivent suivre. Mmh. Il n'est pas nécessaire d'attendre que les bourses viennent essentiellement de l'extérieur pour pouvoir se former. Se former, tout d'abord, une question de volonté. Et quand on a choisi cette profession, on doit s'y mettre âme, corps, comme disent parfois les gens, âme et bagage. Mmh. Alors, nous, je ne peux parler que de notre expérience, l'expérience de l'ICACIC, ayant vu que le grand nombre de professeurs commençait à atteindre un âge de qui pouvait être dépassé par l'énorme régissement de l'université. Mm-hmm. À l'Institut supérieur des sciences de l'information et de l'information et de la communication, on a pensé à cette question de renouvellement. Et c'est ainsi que les textes qui avaient déjà prévu le fonctionnement du troisième cycle ont été mis en application, et c'est ce qui nous a permis, nous qui étions personnel scientifique, à pouvoir nous retremper dans les études, voilà, et à pouvoir réaliser ce que nous venons de réaliser.
Voilà,
et ce problème, si, je voudrais ce problème est un problème vraiment très important, parce que aujourd'hui, malgré le fait que la possibilité soit donnée à un certain nombre d'assistants et chefs de travaux à pouvoir se former, nous remarquons que certains sont en train de se placer dans une sorte d'indolence. Je crois que c'est le lieu ou le moment de pouvoir comprendre que
cette
formation est d'abord personnelle pour qu'on puisse se mettre à la disposition de la nation.
Voilà, merci professeur Kokolo. Il faut de la discipline, du sacrifice pour y arriver. Nous prenons le dernier auditeur de cette première partie avant de donner la parole au ministre et passer au bulletin d'information. Joseph, vous êtes parent, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour.
Et en tant que parent, dans une minute, quelle est votre préoccupation eu égard à ce que nous parlons sur les étudiants, les assistants, les professeurs, les chefs des travaux? Quel est votre souci, Joseph, dans une minute, parce qu'on est à la fin de la première partie de l'émission?
Merci beaucoup. C'est le problème seulement des conditions dont nos enfants prennent cours. Mm-hmm. Ici à Lubumbashi, nous trouvons à peu près 800, voire même 750 sur le même auditoire. Est-ce que ces enfants-là, d'après le ministre, prennent cours sérieusement et ils peuvent vraiment empêcher ce qu'ils connaissent pas le procès? La qualité, oui, le procès, nous en sommes toujours d'accord. Donc, mais les conditions, 800 enfants sur le même auditoire, 700, et d'autres sont debout, d'autres sur des fenêtres. Est-ce que réellement ces enfants, d'après le ministre, peuvent acquérir le matière exactement comme nous parents, nous en attendons?
Voilà. Merci, Joseph, c'est vous poser comme des sous-compléments. Monsieur le ministre, on vous donne la parole. Nous avons deux minutes qui nous séparent de notre flash d'information. Vous allez répondre à nos premières préoccupations. Après, on va interrompre pour suivre le flash info et nous allons revenir après pour continuer. Vous avez suivi les quelques auditeurs, on vous écoute.
Merci beaucoup. Je remercie le professeur Kokoro et l'idée de justifier l'idée que sans sacrifice personnel, personne ne peut s'élever dans cette voie royale du secteur scientifique et académique. Et j'ai insisté sur le fait qu'on ne doit pas faire de l'anarchie comme c'est que l'UPN a fait à travers tout le pays avec 1800 doctorants sans professeur qualifié, sans quoi que ce soit. L'expérience de l'ICACIC nous montre qu'on n'a appris que le personnel scientifique de l'institution. Mm-hmm. J'ai donné des directives claires aux recteurs pour que les facultés puissent assumer cette responsabilité avec une coordination qui relèverait du secteur académique. Concernant M. Joseph, je suis conscient que les conditions actuelles des auditoires, de la plupart des auditoires, sont très mauvaises. Il est gentil parce que à Kinshasa, on a vu des auditoires de 2 à 3 000 personnes, effectivement avec des enfants assis par terre, accrochés sur la fenêtre. Si nous parlons du respect des normes et du retour obligatoire des standards internationaux, c'est aussi cet effort pour humaniser les auditoires, lancer, comme le chef d'avis de le décider, la réhabilitation des plus grandes universités pour que progressivement nous revenions vers les conditions normales et pour le professeur qui donne cours et pour les étudiants, parce que nos enfants doivent être assis correctement sans être dans une boîte à sardines. C'est l'image actuelle de nos auditoires et c'est le combat qu'on a déclenché.
Voilà, monsieur le ministre, on vous garde en ligne et on va revenir pour la deuxième partie. Et la conclusion, je rappelle à nos auditeurs que Parole aux auditeurs se penche ces jours sur le fait que dans beaucoup d'universités, hein, beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur et universitaire à travers le pays, ce sont les assistants et chefs des travaux qui dispensent les cours en lieu et place des professeurs. Comment vous réagissez à cette situation et qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse remédier à cela et améliorer? On en a parlé depuis le début de cette émission, Parole aux auditeurs qui reçoit pour vous, monsieur Léonard Machako Mamba, il est ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Beaucoup d'auditeurs sont passés dans cette émission pour poser des questions. Les autres ont assez proposé. Vous pouvez aussi également les faire, surtout en ce moment, faites-les par l'adresse électronique pa@radiookapi.net et votre message pourra être lu sur les antennes comme l'ont fait les autres auditeurs. Mais Parole aux auditeurs continue en sa dernière partie. Je rappelle à tous nos auditeurs que nous nous penchons ces jours sur le fait que beaucoup, dans beaucoup d'universités, beaucoup d'institutions d'enseignement supérieur et universitaire à travers le pays, ce sont les assistants et les chefs des travaux qui dispensent les cours à la place des professeurs. Vous avez évoqué toutes les raisons de cela et vous avez aussi surtout proposé des pistes et des solutions que nous analysons ensemble avec le professeur Léonard Machako Mamba, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui est en ligne. Monsieur le ministre, vous étiez en train de parler avant qu'on puisse interrompre pour le flash information, en vous adressant bien sûr aux parents, Joseph qui nous a écrit de Lubumbashi, mais permettons aussi de que nous puissions lire ces deux messages avant de vous redonner la parole. Il y a Pierre de Lubumbashi qui dit ceci: nous constatons que dans notre université, les assistants sont des étudiants qui ont distingué grâce à la corruption ou soit qu'il est un enfant des professeurs ou d'un ministre. Les étudiants doués qui n'ont pas les moyens ni des liens familiaux particuliers sont délaissés. Pour ces étudiants doués, rencontrent souvent des problèmes dans les révolutions causées par ceux qui sont malveillants. Il y a Désiré qui n'a pas indiqué les lieux, mais il nous a écrit par internet et dit ceci: j'apprécie la réaction du ministre qui a reconnu la loi et les difficultés qui rongent l'enseignement supérieur et universitaire. Je souligne plutôt l'aspect trop exagéré de la presse congolaise vis-à-vis du personnel scientifique partout ailleurs, doctorants ou chercheurs, enseignants sous la direction du co-professoral. Pourquoi la presse ne s'intéresse qu'aux assistants et chefs des travaux? Comptez le nombre des universités instituts supérieurs par rapport au nombre de professeurs, des chefs des travaux et assistants. D'ailleurs, le ministre l'a dit, ils sont insuffisants. Quels sont les moyens mis à leur disposition pour défendre leur thèse? Qui doit préparer la relève avec les salaires modiques? Que peut-on faire? Est-ce qu'on peut faire la recherche au Congo? Y a-t-il des plans au niveau du ministère? S'il y a des bourses, à qui l'accorde-t-on? Voilà autant d'interrogations qui méritent qu'on puisse avoir des réponses. Mais prenons d'abord la parole, donnons la parole plutôt à Jean, assistant. Vous êtes assistant, vous êtes à Kailo au Maniema. Vous êtes en ligne, Jean, bonjour. Jean, oui, bonjour. Alors, on est à la fin de l'émission. Vous avez une minute et demie juste pour donner votre point de vue et permettre à ce qu'on puisse clôturer cette émission, Jean.
Oui, je peux porter d'abord quelques corrections. Je ne suis pas assistant, plutôt je suis étudiant.
Alors, Jean, vous êtes étudiant à Kailo au Maniema. Voilà, nous sommes allés vous accoler l'assistant rapidement là, mais bon, ça va arriver pour vous. On le fait. On vous écoute maintenant, Jean.
Oui, moi, je voulais tout juste demander au ministre, parce que je constate que beaucoup de professeurs ne considèrent pas les chefs des travaux et les assistants. Mais comment est-ce que les ministres arrivent à accorder à ces chefs des travaux la responsabilité de diriger une institution d'enseignement supérieur? Comment?
Votre problème, c'est qu'il y a des chefs de travaux qui sont dans les comités de gestion, qui ont la responsabilité de diriger les institutions. Merci, le ministre va vous répondre. On prend les derniers auditeurs, c'est Simon qui nous appelle de Matadi. Simon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes les derniers auditeurs. Souvent, les derniers auditeurs n'ont pas assez de temps, mais ils ont juste l'occasion et le privilège de conclure l'émission au nom des auditeurs. On vous écoute.
En fait, j'appuie quand même le ministre sur certaines initiatives qu'il est en train de prendre pour notre enseignement supérieur, mais il va falloir que ça soit vraiment une politique gouvernementale, parce que l'impression que ça donne, on dirait qu'il est le seul qui se bat. C'est tout le gouvernement, le président de la République et qu'on sort. Parce que l'université, c'est la sommité du savoir. Il ne faut pas que l'université soit n'importe quoi et n'importe comment. On est en train de parsemer les universités alors qu'il y a rareté des professeurs. Et puis, il y a des universités, sauf peut-être le recteur qui est professeur. Le reste, ce sont des assistants. Un licencié qui va enseigner des licenciés. Qu'est-ce qu'il va leur apprendre de plus? Moi, je crois qu'il va falloir à la République démocratique du Congo. Si vraiment nous voulons être responsables, nous devons vraiment faire toute une politique dans son ensemble général qu'il va falloir mettre en place. On n'a pas de professeurs, 4 ou 5, il y a vieillissement des classes, des corps professorales. On ne pense pas aux remplaçants et qu'on sort. La relève est hypothéquée. C'est pourquoi nous voyons déjà qui terminent à des universités qui ne savent ni lire, ni écrire. Tout ça, c'est un problème. Parce qu'on donne tout aux assistants. Les assistants deviennent des maîtres, des faiseurs des lois.
Merci Simon, on n'a pas assez de temps. Merci beaucoup. Nous remettons la parole à notre invité, à monsieur le ministre. Alors, vous avez suivi les deux derniers auditeurs, les deux messages lus, et ça vous permet aussi de clôturer cette émission dans, je crois bien, si la réalisation m'autorise, dans 4 minutes. Vous avez 4 minutes pour répondre aux auditeurs et clôturer l'émission. Monsieur le ministre, vous êtes en ligne? Voilà, je crois peut-être que le temps que la réalisation puisse rappeler le ministre pour conclure l'émission, parce qu'on a eu deux messages et deux derniers auditeurs, les auditeurs qui étaient en train, Simon de Matabi, qui étaient en train de poser les problèmes de la qualité, comme on l'a dit tout à l'heure là, les problèmes de la qualité de l'enseignement, du fait qu'il y a beaucoup d'universités et de professeurs, et même ils voudraient que ça soit défini dans une politique globale et que ça ne donne pas l'apparence du ministre seul, qui se bat pour améliorer le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Mais dommage que la ligne du téléphone ne nous permet pas d'avoir le ministre pour conclure la réalisation afin de se battre. Mais je vous rappelle que notre sujet du jour, c'était autour des assistants et chefs de travaux qui sont en train de donner cours. Je crois bien que l'invité est en ligne, ça va. Monsieur le ministre, vous êtes en ligne maintenant, bonjour. Monsieur le ministre, vous êtes en ligne?
Oui.
Voilà, on vous a perdu juste le temps, comme je le disais, on a perdu une minute, et là c'est juste 3 minutes pour conclure cette émission. On avait 4 minutes, mais dommage, on a 3 minutes pour conclure l'émission, on vous écoute.
Merci beaucoup. Je voudrais remercier tous ceux qui sont intervenus et dire que la problématique de la relève académique, c'est un problème majeur pour l'avenir de notre pays. Notre pays doit se mobiliser sous les yeux du chef de l'État, du chef de gouvernement, pour qu'on améliore les conditions sociales. Le premier palier vient d'être franchi et ça doit continuer pour que cette profession soit attractive. Deuxièmement, il faut un sursaut de la part des chefs de travaux et des assistants pour que, malgré les difficultés, qu'ils puissent publier et qu'ils puissent monter ces chefs de travaux qui se battent, soit localement, soit grâce aux bourses que nous mobilisons. Nous sommes en train de renforcer le partenariat pour que demain vienne renforcer le corps de professeurs. Oui. Je voudrais aussi dire que le travail de l'audit et de l'enquête de viabilité qui nous a amené maintenant à fermer 400 universités non viables, c'est un plus pour que les professeurs qui se dispersent dans plus de 20-30 universités puissent avoir le temps de s'occuper et de leurs collaborateurs qui sont les chefs de travail et les assistants, mais également et surtout les étudiants. Je pense que s'ils sont attentifs à l'exigence de la qualité de l'excellence, l'introduction de nouvelles technologies de l'information et de la communication va permettre à un professeur tout en restant sur un site de pouvoir en fait diffuser un cours de qualité dans plusieurs établissements à la fois, toujours pour diminuer ces charges excessives de mobilité et surtout un épuisement qui fait que les gens sont entre les camions, les avions et non même pas le temps de faire de la recherche et de l'encadrement.
Monsieur le ministre, donc, pour terminer, dans 30 secondes, si vous permettez que j'ajoute une inquiétude, vous n'avez pas suivi cela parce qu'on a perdu la ligne, c'est notre auditeur Simon de Matadi qui s'inquiète. Lui, il a l'impression que dans cette lutte pour améliorer la qualité, il le dit sur les antennes, qu'il voit comme si vous vous battez seul, que cela ne ressort pas dans la politique globale où tout le monde s'implique pour vous aider à atteindre ses objectifs.
Merci, moi qui ne se trompe pas. La décision du gouvernement du 22 juin pour l'assainissement et l'audit, c'est le 22 juin 2009, qui a été reconfirmée le 4 septembre. Et vous pouvez être rassuré que toutes ces décisions qui sont prises sont invalidées par le gouvernement, appuyées par le gouvernement.
Voilà,
c'est pour ça que je demande à tous ceux qui s'obstinent en pensant à nos amis de l'UPEN qu'ils ne se trompent pas.
Merci.
Le chef de l'État a dit rétablissement de l'autorité de l'État, ça doit aussi se faire à l'enseignement supérieur.
Merci beaucoup, monsieur le ministre Léonard Machakomamba, d'avoir accepté notre invitation. Et nous disons aussi merci aux auditeurs des Radio Capi qui ont accepté de nous accueillir dans leur maison et ceux qui sont passés sur les antennes pour intervenir, ceux qui en avaient la volonté, mais malheureusement, les temps et l'espace ne nous ont pas permis. Merci à tous.
Allô? 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 Oui. Il ne répond pas.
Voilà, on clôture par là. On se retrouve demain jeudi. Vous savez qu'il s'est clôturé le week-end dernier à Cancun au Mexique, le sommet de l'ONU sur les réchauffements climatiques. Lors de ces sommets, les pays développés ont décidé d'octroyer aux pays en voie de développement et les pays sous-développés un fonds pour les aider à faire face aux effets du réchauffement climatique et aussi les aider à lutter contre ces réchauffements. Cela va faire l'objet des paroles aux auditeurs demain. Une seule question pour notre échange, comment pouvez-vous contribuer vous aussi dans la lutte contre les réchauffements climatiques? Soyez nombreux à réagir à l'adresse pa@radiocapi.net. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à produire cette émission. Marie-Chantal Lumba, Kikim Poutou, Nicole Ngata à la supervision. La mise en onde a été assurée par Dieudonné Nyangasa. Parole aux auditeurs, vous pouvez retrouver l'émission sur www.radiocapi.net et aussi en rediffusion à 20h, heure de Kinshasa, 21h à l'est et au centre du pays. Mais ne quittez pas parce qu'il y a autre chose tout de suite après. Thank you.